pour cette invitation. Mettons tout de suite les choses en clair. Je crois que le débat fondationnel en mathématiques au XXe siècle a été écrasé, presque tué, par ce tournant linguistique. Disons, au début, il y avait des bonnes motivations. Frege le dit très bien, on est dans une situation de délire par rapport à la connaissance de l'espace à cause des nouvelles géométries auxquelles il est tout à fait étranger. Il y aura d'autres, un philosophe très important de l'époque, Düring, qui lors d'un prix en 92 dira que Riemann et Helmholtz sont totalement fous. Ils perdent le sens de l'espace et du monde. À partir de là, quoique Frege développe un projet original, il fallait donner une réponse à cette crise gravissime du rapport à l'espace, qui était très solide pendant 2500 ans. C'est la géométrie d'Euclide dans des espaces cartésiens. La réponse de Frege est audacieuse, courageuse. Tournons-nous vers le langage avec un peu de structure de dessin dans l'écriture symbolique. Pourquoi pas? Il faut explorer une autre voie. Hilbert va souligner cet aspect d'une façon très nette avec un renforcement de tout ce qu'il y a de formel dans l'approche linguistique, la méthode axiomatique formelle. Hermann Weyl, qui lui-même y définissait son meilleur élève, réagit très nettement. Ça se voit déjà dans Das Continuum. Il dit explicitement que l'idée de viser la consistance, la cohérence d'une théorie est certainement une condition nécessaire, mais n'est pas une condition suffisante qui motive la construction mathématique. Je suis en train de le citer. Comme chez Riemann, qui parlait d'une généalogie des concepts dans l'analyse des mathématiques et de leur fondement, comme analyse d'une constitution, d'un parcours, qui est aussi un parcours historique, mais a tout d'abord une généalogie des concepts, disait Riemann. Et Hermann Weyl, je traduis, « Pour le moment, nous ne pouvons répondre à cette question, quel est le sens ? Sinon, en affirmant la croyance dans la raisonnabilité de l'histoire qui a porté ces structures à travers un processus vivant des développements conceptuels. » Et dans ce continuum, et encore plus dans la philosophie des mathématiques et des sciences de la nature, il insiste, l'idée qu'on puisse décider toute proposition mathématique par une technique déductive banalise les mathématiques. Elle le dira encore plus fort dans Das Continuum. On est en train, par cette approche, Hilbertien, son prof, de banaliser, trivialize mathematics. C'est une perte de sens, va dire dans un article de 54, Axiomatic versus Constructive Procedures in Mathematics, qui est paru dans In Mathematical Intelligencer et a été republié par Tito Tonietti en 85. Il cite Hilbert et il dit « C'était ça l'attitude dominante dans l'esprit fondationnel d'Hilbert. Il doit être possible de remplacer toutes les propositions géométriques et où il y a les mots « point »,« ligne »,« plan » par « chaise »,« table », »,« tasse » et « nonsense », les commentaires d'Hermann Weyl. Donc, il avait pris tout de suite, en 1918, cette position très nette, au point de faire une conjecture qui n'est pas assez citée. Mais c'est dans la section 1.3, il conjecture l'incomplétude en 1918 de l'arithmétique. Il le dit d'une façon extraordinaire. Il dit, il peut y avoir deux nombres réels, R et S, définissables en arithmétique, ou tels que R est plus petit que S, si et seulement si il existe un rationnel qui les départage entre R et S. Mais il peut arriver que ni l'existence, ni la non-existence d'un tel rationnel qui les départage soit une conséquence des axiomes de l'arithmétique. C'est extraordinaire, puisque c'est quelque chose qu'on peut dériver des résultats d'incomplétude concrète des années 80. Il y a des résultats sur lesquels j'ai aussi travaillé, normalisation des années 70, Paris-Harrington, Friedman-Kruskal, qui donnent des fonctions définissables en arithmétique, qui sont récursives, calculables, comme les réels dont parle Hermann Weyl, quoi qu'il n'ait pas encore la notion formelle, mais il sait ce que veut dire être définissable en arithmétique, et qui ne sont pas démontrablement totales en arithmétique, puisque la croissance est telle qui dépasse toute fonction, celle de toute fonction démontrablement totale en arithmétique. On peut traduire tout ça dans la convergence si rapide de ceux de réels définissables, tels que l'arithmétique ne peut pas les départager. Et c'est en 1918. Et plus loin, deux sections plus tard, il dit, il n'y a pas de raison de croire que tous les ensembles infinis doivent contenir un sous-ensemble dénombrable. C'est l'axiome du choix. Hein? C'est, il conjecture l'indépendance de l'axiome du choix. C'est une vision du grand géomètre qui apprécie quelque chose que pour démontrer. Et en fait, en 1949, lors d'un exposé pour l'anniversaire, le 70e anniversaire d'Einstein, il dira qu'à l'époque, il était un loup solitaire. Tout à fait, tout à fait. Regardez un instant un livre remarquable, absolument remarquable, qui a marqué la culture des logiciens, des mathématiciens qui travaillent en logique. From Frege to Gödel, d'Evan Einhard. C'est un très grand livre, puisqu'il y a un choix remarquable de textes avec des introductions extrêmement bien faites. C'est l'ouvrage, un ouvrage de type léniniste de quelqu'un qui avait été le secrétaire de Trotsky, dans le sens que, par les très hauts niveaux de la construction, il massacre les oppositions. Il y a seulement deux pages d'Hermann Weyl qui ne sont pas très intéressantes. Ça arrive qu'un grand bonhomme puisse écrire deux pages pas très intéressantes. Van Einhard, tac, les a choisis. Ce sont deux pages, il dit simplement l'approche d'Hilbert est relativement intéressante et il fait des introductions remarquables. Et cette histoire, qui est le fondement des mathématiques, est centrée sur le tournant linguistique de Frege à Gödel, réponse négative, entre autres. Réponse négative, mais quand même, ça fournit le cadre des pensées, encore une fois, par la beauté de ce texte. Poincaré, Hermann Weyl, Henriques, tout à fait exclus de débat fondationnel. Par contre, ils sont au cœur, hein, avec des différences, chacun son approche, mais encore une fois, la vision, le rapport à l'espace, l'organisation du espace et du temps, la construction conceptuelle qui guide les fondements même, l'analyse fondationnelle des maths. C'est pour ça qu'il peut conjecturer l'incomplétude et l'indépendance de l'action de choix. On ne le dit pas assez, il voit ce qu'est la construction mathématique. Et là, il y a un départage très important à faire, hein, que j'ai fait dans le livre avec Francis Bailly, dont le titre est « Mathématiques et sciences de la nature ». La singularité physique, non.
Philosophie.
Ça, c'est Hermann Weyl.
Donc,
si. Non, mais c'est « Mathématiques et sciences de la nature », sans philosophie.
Sans philosophie.
La singularité physique du vivant, puisqu'on s'occupe surtout du vivant. Mais le point central, c'est cette distinction qui est implicite chez Weyl, qu'il faut ressortir, hein. D'un côté, il y a des principes de preuve. C'est formidable que dans l'école hilbertienne, on est sorti, grâce à Frege aussi, la gestion formelle de pour tout, il existe, etc. Et qu'on en fasse des métamathématiques, c'est-à-dire qu'on étudie ces calculs des signes. C'est remarquable, on a inventé une nouvelle branche de mathématiques. Wittgenstein dira, les métamathématiques de Hilbert ne sont autres qu'une autre branche de mathématiques. Ce qui est très intéressant, c'est la logique mathématique. Mais il y a d'autre côté les principes de construction conceptuelle. Hermann Weyl les traite de cette façon. Un nouveau système mathématique surgit d'un système originaire grâce à ce que j'appelle un processus mathématique. Ce processus est la formation des concepts et a comme caractéristique d'être au cœur de la pensée mathématique. Les mathématiques occidentales démarrent par ça, puisque, Pierre, tu as raison, le raisonnement dialectique est fondamental. L'invention de la logique est une invention grecque sur l'agora. Euclide déduit d'une façon formidable ces théorèmes. Il y a de la logique, mais c'est la moitié du travail. L'autre moitié, c'est l'invention de la première et plus fondamentale des structures mathématiques, la ligne sans épaisseur. Les figures d'Euclide ne sont que des bords. La définition bêta, la ligne est une longueur sans épaisseur, c'est la révolution, est révolutionnaire. C'est vraiment la posture mathématique occidentale, seulement nôtre. C'est l'idée, il y a derrière toute la philosophie grecque, évidemment il y a Platon, il y a l'invention de la science grecque, il y a une ontologie qui est propre à la pensée grecque, mais c'est l'invention. Pourquoi je dis la ligne? Puisque le point pour Euclide est un séméion. Les séméia sont aux extrêmes des segments, définition gamma, à l'intersection de deux lignes. C'est une position sur une ligne, c'est un signe. C'est pas... Après, Proclus a ajouté, le point n'a pas de part, ce qui est tout à fait cohérent avec la géométrie d'Euclide, mais ce n'est pas Euclide. C'est la ligne sans épaisseur, cette invention structurelle, c'est la formation d'un concept. Et seulement nous, dans le sens que Louis, au IIIe siècle, après Jésus-Christ, le 9 chapitre dont tu as parlé, Pierre, a un calcul du pi grec, comme la racine de 2. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il y a cette très belle page traduite par Karim Shemla, il dit, vous prenez un cercle et vous faites des approximations, il donne un algorithme formidable, beaucoup mieux qu'Euclide, approximation de polygone à l'intérieur et à l'extérieur. Quand vous ne voyez plus de différence entre les lignes du polygone et du cercle, ça suffit. De même, la racine de 2, il dit, vous faites le calcul de la racine, et si vous avez un triangle rectangle plus grand, vous continuez le calcul un peu plus, c'est très commode. Il n'y a pas l'angoisse grecque de dire, il y a l'apéron dans le fini, il y a la logos dans le logos, cette angoisse pour laquelle nombreux de nos collègues se sont tués en Grèce. Mais ils avaient raison, vous rendez compte, dans la logos, dans le logos, la racine de 2 et l'apéron dans le fini, c'est cette angoisse de l'infini qui permet aux Grecs d'inventer la ligne sans épaisseur, qui est un infini actuel. La ligne sans épaisseur est une pratique de l'infini actuel. Quoique, évidemment, l'appréciation mathématique est seulement sur l'infini potentiel. On sait bien, pour Aristote, l'infini actuel est une propriété négative.
Il y a un terme générique en chinois pour c'est évanescent qui se dit wei en chinois.
Oui, c'est évanescent. On s'en fout, on ne voit plus la différence. C'est une question de commodité, mais ça a un sens pratique. Ils ont une autre métaphysique. Hein, ce qui n'empêche que ces livres sont extraordinaires. Mais il y a une autre métaphysique. Hein. Et donc, l'invention conceptuelle, c'est ça, les principes de construction. Mais quels sont les principes de construction au cœur de l'invention géométrique en particulier et qui sont au cœur des travaux d'Hermann Weyl? Les propriétés de symétrie et d'ordre. Hein, c'est les groupes et les semi-groupes aussi. Ce sont les deux. Évidemment, on a mentionné la théorie des catégories. Souvenez-vous que MacLean a passé un an à Göttingen, au début des années 30, en 1930-31, et son interlocuteur était Hermann Weyl. Il va le reconnaître. C'est de lui qu'il apprend ses rôles de symétrie dans la construction conceptuelle. Et quand il invente avec Heilenberg la notion de transformation naturelle après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un jeu de symétrie. Les diagrammes des transformations naturelles ne sont que des symétries qui transfèrent des symétries. Après, ils pourront donner la notion de fonteur, la notion de morphisme qui arrive après. Les théories catégoriques commencent top-down. Transformation naturelle en tant que symétrie. Attention, nos amis les formalistes du tournant linguistique nous disent « Ah ben, mais tout diagramme catégorique peut être décrit par des équations. » Ah bon Dieu, on rate tout. Puisque ce qui compte, c'est que dans l'écriture d'un diagramme, on voit les symétries. Quand on écrit les équations correspondantes, on ne les voit pas. C'est un peu comme le théorème de Noether. Il faut un théorème puissant pour sortir des équations du mouvement, les symétries en tant que propriété de conservation. De même, des équations qui décrivent sans doute un diagramme catégorique, il faut faire sortir les symétries par l'écriture diagrammatique. C'est ça un principe de construction fondamentale. Pourquoi de construction? Puisqu'on écrit un diagramme pour un produit, hein, c'est facile, on dit « Ah ben, mais je peux renverser les flèches ». Ce qui s'est passé, on invente le coproduit, qui est l'invention par une dualité, un renversement des flèches, une symétrie donc, une dualité, une symétrie spéculaire, qui permet d'avoir un nouveau concept. Hein. Et pas inoffensif, pas neutre. En plus, on va interpréter la disjonction, par exemple, la disjonction intuitionniste. Donc, c'est tout autre regard sur les mathématiques quand on ajoute au principe de preuve formelle, qui encore une fois sont importants. Le travail d'Hilbert est remarquable. Il fallait cette clarté, donner les définitions en amont. Par exemple, les mathématiciens russes, jusqu'à la chute du mur de Berlin, ne faisaient pas ça. Hein, c'est-à-dire. Moi, j'ai pas mal lu H. F. Kolmogorov, c'est terrible. Et n'ayant pas assez apprécié Hilbert et Bourbaki, ils ne mettent pas en tête les définitions. C'est du bon goût, bon Dieu. Et il y a des définitions dans la preuve, et qui implicitement. Et ce n'est pas bon. Donc, Hilbert et Bourbaki, entre autres, par les 1000 mérites mathématiques, il y a aussi cette attitude d'une clarté formelle, de distiller, d'expliciter les définitions, les principes de preuve, qui est une conquête. Mais bon Dieu, c'est terriblement, radicalement incomplet. Mais c'est incomplet, pas seulement pour le théorème d'incomplétude, mais c'est incomplet par rapport à la praxis et au fondement des mathématiques, hein, qui sont dans l'analyse de l'invention des structures. commençant par l'explicitation du rôle de la ligne sans épaisseur, l'invention du bord qui est au cœur de la géométrie grecque, qu'il ne faut pas oublier, qui encore une fois différencie notre géométrie de celle chinoise, encore plus indienne, qui était encore plus pratique. C'est Hermann Weyl qui le remarque, mais je n'ai pas retrouvé le point, peut-être, tu le sais, puisqu'il s'intéressait à l'Inde, il remarque quelque part que les Indiens ont un débat sur l'infini, à tous les potentiels religieux et métaphysiques extrêmement profonds, dignes d'une autre, mais qui ne le transfèrent pas dans les mathématiques. Tandis que nous, on l'a fait en Grèce, puisque c'est une théologie, c'est de la métaphysique, on l'a fait sur la perspective. La perspective italienne est inventée par les peintres au 14e, pas au 15e, on sait toujours Alberti. Non, c'est Ambrogio Lorenzetti, c'est le 14e siècle. Il invente pour avoir une forme symbolique de la présence de l'infini de Dieu dans les annonciations. Pendant 50 ans, 1344, Ambrogio Lorenzetti, jusqu'à 1400, la perspective n'est que dans les annonciations. Le point de fuite, à la limite infinie, c'est la présence de Dieu dans l'annonciation. Et c'est la thèse de Daniel Arras, le travail de ma fille, thèse de doctorat sur ce thème-là. Et donc, il y a cet engagement théologique qui nous a... Plutôt, c'est que la même attitude métaphysique qui a permis l'invention actuelle qui est de notre culture, de l'infini actuel, a été est la même qui nous a donné l'infini actuel mathématique. Hein. Du reste, Saint Augustin le comprend très bien. Sous le rôle de la ligne sans épaisseur, il comprend que c'est au cœur de la construction d'Euclide. Et il dit, j'ai vu la ligne la plus mince tracée par le meilleur des architectes, les fils les plus minces construits par la plus petite des araignées. Et ils ont une épaisseur. Comment puis-je concevoir la ligne sans épaisseur d'Euclide? C'est que Dieu m'a mis en mémoire la connaissance de Dieu, la connaissance des mathématiques. Évidemment, je ne partage pas l'ontologie, je ne partage pas la métaphysique de Saint-Augustin, mais il a mis le doigt sur le point essentiel. Saint-Augustin, dans les Confessions, il y a cette très belle page sur la mémoire. Et il a mis le doigt, et Piero della Francesca, de Perspectiva Pingendi, il dit, comment puis-je faire une ligne sans épaisseur, moi, peintre? Lui, il fait un traité de géométrie projective pour peintre. C'est un livre de géométrie, géométrie projective pratique. Eh bien, je fais le mieux que je peux avec les plus minces des pinceaux pour faire... Il comprend, encore une fois, que c'est l'enjeu essentiel, la géométrie d'Euclide. Et on ne le dit pas assez. C'est un principe de construction qui est au cœur de notre géométrie, et seulement la nôtre. Hein. Et je pense que c'est pour ça que les Chinois s'arrêtent avec Louis. Il faudra le XVIIe siècle quand les jésuites apporteront le calcul différentiel, la géométrie d'Euclide, etc. C'est une autre attitude. Si vous pensez en Inde, par exemple, on ne voit pas les mathématiques comme un instrument de connaissance. C'est un outil technique, on fait des calculs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème à avoir des nombres négatifs comme les Chinois, puisque c'est la dette. Hein, pour les Grecs, c'était inconcevable, le nombre négatif. Ce n'est pas une ontologie possible. Et les Chinois écrivent en noir les nombres négatifs, en rouge les nombres positifs, puisqu'ils pensent à la dette. Là, ils se trompent, puisqu'il fallait faire rouge 3. Mais ils font des calculs, et donc zéro, ça surgit au 8e siècle, en différentes parties de Chine et de l'Inde, puisque c'est ce sens pratique. Dans la culture hindoue, pour les hindouistes, les règles du monde ne sont sûrement pas mathématiques, non, ce sont les règles du sanskrit. C'est les règles de la grammaire sanskrite qui sont les règles de la dynamique du monde. C'est toute autre ontologie, toute autre attitude. Je ne sais pas quelle est la bonne, mais nous, grâce à ce mélange théologie-mathématique, nous avons eu la puissance de cet infini actuel qui arrive. Quelques mots encore sur Hermann Weyl, qui pour moi est vraiment la référence de cette attitude qui en particulier d'un rapport à la physique, ne nous donne pas seulement la géométisation de la physique, mais il y a une physicalisation de la géométrie, puisque Riemann, Lobachevsky sont totalement motivés par la physique, et aussi Hermann Weyl, ses constructions sont motivées par la physique, jusqu'à la géométrie non commutative aujourd'hui. Et donc il y a une exigence d'intelligibilité, d'organisation de la physique, qui est la motivation principale pour tout ce parcours qui va de Riemann à Helmholtz. Poincaré, la géométrie des systèmes dynamiques, Hermann Weyl, Alan Cohn. Et pour les premiers, tous ceux-là, la construction conceptuelle est au cœur, et l'analyse de la construction conceptuelle, de cette généalogie des concepts, est au cœur d'une analyse fondationnelle. Donc, bien au-delà de tout tournant linguistique. Et comme je vous ai dit, la réponse d'Hermann Weyl est incroyablement précoce. Il met le doigt sur l'incomplétude dès 1918. Pour dire quelque chose sur le temps, il y a ces pages remarquables dans d'Ascontino, qui va reprendre aussi dans Philosophie des mathématiques et des sciences de la nature, où il insiste à dire la représentation que nous donnons grâce au continu à la Cantor est remarquable, très efficace, je ne peux pas m'en passer, mais il n'est pas content, non? Et il dit le continu n'est pas composé des points. Hein? Le continu phénoménal n'a rien à voir avec la construction de Cantor, qui est une construction spécifique, très puissante. Et il dit il faut donner des crédits, it is to credit of Bergson's philosophy, hein? C'est bien rare. Une phrase de ce genre. Il faut reconnaître le rôle de la philosophie de Bergson qui met en évidence, je suis en train de traduire, cette division profonde entre le monde des concepts mathématiques et l'expérience immédiate de la continuité du temps phénoménal, la durée. Évidemment, il a aussi Husserl dans sa tête, mais explicitement, il fait référence à... Je crois que là, on a beaucoup à dire grâce à la notion de topos théorétique, où on peut se passer des points, hein, des topos sans assez de points, permettre de traiter les continus sans points. Et ça, Grothendieck et Glowier nous ont beaucoup donné d'outils. Et le livre des Alamer est absolument remarquable, malgré son écriture un peu latino-américaine, mais il est formidable, très fleuri, très fleuri, mais c'est formidable. Moi, j'ai écrit un très long compte-rendu téléchargeable où je pense que vraiment c'est un livre, j'explique comment c'est un livre très important pour ma réflexion philosophique aujourd'hui, qui sort de ce drame du tournant linguistique. Hein. Et surtout l'effacement de ceux qui pensaient différemment. Ils ont été effacés du débat fondationnel. Encore une fois, la question de l'incomplétude le met en évidence. J'ai écrit un petit texte il y a quelques années, Reflections on Concrete Incompleteness, puisque j'y avais travaillé techniquement dans les années 80. Même en arithmétique, dans les cas de l'incomplétude concrète, c'est quoi l'incomplétude concrète? Ce sont des preuves de l'indémontrabilité en arithmétique d'énoncés arithmétiques intéressants. Ce sont des énoncés des théories des nombres, théories formelles des nombres intéressants. Kruskal-Friedman est un très bel exemple. C'est un peu compliqué à énoncer, mais c'est intéressant. Il a des applications et travail remarquable de Friedman. Il est indémontrable en arithmétique. Pour le démontrer, il faut utiliser quoi? Il faut utiliser des jugements géométriques. Comme c'est difficile à expliquer maintenant, mais c'est un jugement de bon ordre qu'on peut dire seulement dans une spatialisation des entiers. Il y a un pourtout qui est inaccessible à la preuve formelle. De même pour le théorème de normalisation, il y a donc des résultats concrets qui, même en arithmétique, demandent le recours à un jugement géométrique. Il s'agit d'un jugement de bon ordre, si vous voulez. Encore une fois, ceci à l'intérieur de l'arithmétique. Hein. Et Luciano Boy nous rappelait, dans des domaines comme la théorie des nœuds, ceci était patent, mais disons, c'est peut-être encore plus surprenant que ça arrive à l'intérieur de l'arithmétique. Un autre thème, je voudrais à peine toucher, mais ça sur provocation de Pierre, pour te répondre. Là, c'est vrai, on a un problème avec des très grands nombres, mais je ne suis pas du tout d'accord dire c'est comme l'infini. Non, non, ça c'est l'attitude qu'on a appris, qu'on pratique en mathématiques. Non, en mathématiques, quand on compte jusqu'à 7, 8, on en a marre. On dit, ben alors je vais à l'infini. C'est une attitude tout à fait raisonnable, mais ce n'est pas vrai.
Non, non, mais moi je place une catégorie intermédiaire.
Tu arrives jusqu'à 150.
Non, non, mais je veux dire qu'il y a, bon, 8 puissances, 8 puissances, ce n'est pas l'infini. Non, je le passe pas.
Ah, voilà, d'accord. Et nous avons un problème, c'est-à-dire on n'a pas l'habitude, ni en mathématiques, ni en physique, de les traiter. C'est si quelqu'un travaille sur, le courant d'El Niño dans l'océan, il s'en fout totalement du nombre de molécules. Il a l'hydrodynamique, des fluides, dans un continu, lui dire le nombre des molécules d'eau, ça ne va pas beaucoup apporter. On n'a pas l'habitude à ces nombres. Et en physique statistique, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'infini. On passe à l'infini, l'intégrale thermodynamique, c'est le passage. Quand il y a beaucoup, quand on arrive au nombre d'Avogadro, on dit, on passe à l'infini. C'est ça l'attitude, par exemple, de toute la noise biology. On prend des très grands nombres, on passe à l'infini. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut traiter ces nombres. On en a besoin. Par exemple, moi, je collabore avec des biologistes du cancer. Il y a ce projet terrible, terrifiant, énormément d'argent. Mapping Human Genomics, puisque la situation en biologie du cancer est dans un impasse total. Et il y a les gens qui disent, nous allons mettre tous les omics dans les ordinateurs les plus puissants du monde. C'est quoi les omics? C'est les metabolomics, genomics, proteomics. De 10 millions de personnes, en calcul approximatif dit que ça sera 10 à la 20. Il y aura 10 à la 20 nombres, c'est-à-dire c'est tant de ces nombres, 10 puissance 20. Et puisque, alors, les ordinateurs, en découvrant les régularités sur ces nombres, vont nous dire comment traiter le cancer. C'est chose de terrifiant. Il y a la théorie de Ramsey. Il y a ce théorème Vandenberg de Ramsey que j'ai utilisé dans un petit article de Deluge of Spurious Correlations in Big Data, qui montre que quand on a des nombres assez grands, il y a des régularités qui sont dues exclusivement au hasard. Techniquement, disent la chose suivante. Donne-moi une régularité, ce qui peut être défini par trois paramètres, la longueur, le nombre de couleurs dans lesquelles tu la départages, la arité, les corrélations que vous mettez. Je peux calculer un nombre, peut-être que tout ensemble de cette cardinalité contient la régularité que tu as donnée. Et tout ensemble, donc même un ensemble de nombres produits au hasard, par des mesures quantiques, par des tirages de dés. Donc, il y a des régularités qui sont dues simplement à la cardinalité. Ces grandes cardinalités entraînent des régularités qui n'ont aucun sens. Et les mathématiques de la théorie de Ramsey, ce sont peu de gens qui font ça, c'est très particulier comme esprit mathématique, qui travaillent donc sur très grand nombre. Mais je crois que ça devient d'actualité, puisque avec les ordinateurs, on commence à avoir vraiment des nombres impressionnants. En plus, la biologie pose un problème intermédiaire. Car il y a des nombres, des moyennes grandeurs. On ne peut pas utiliser ce qui est fait, malheureusement, ces attitudes de la physique statistique propres à la noise biology. Par exemple, quand on a à voir avec les foies, 500 millions de cellules, système immunitaire, entre 500 millions et 1 milliard, c'est quoi comme nombre? C'est un niveau mésoscopique où ce n'est pas la moyenne qui compte. Très longtemps, on nous a raconté que les foies, par exemple, travaillaient grâce à la production moyenne d'enzymes. C'est faux. Maintenant, on sait qu'environ la moitié des cellules du foie ont plein de mutations, plus de chromosomes, c'est la pagaille génétique. Mais ça, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas que sa moyenne. Simplement, il y a une production d'enzymes dans toutes les directions, des diversités enzymatiques qui permettent de faire face à la variété des chocs toxiques de tous les jours. Donc, ce n'est pas la moyenne qui compte, c'est la production de diversité. Sur des nombres moyenne grandeur, les systèmes immunitaires, c'est le maximum de ça. Les systèmes immunitaires, son boulot, c'est de produire de la diversité en permanence, au moins jusqu'à 70 ans. Après, ça va être moins. Et donc, c'est vraiment l'enjeu, c'est des nombres moyens, pas très grands, mais où l'analyse ne peut pas être faite en termes de moyenne, mais une analyse de la production de variabilité, diversité, adaptivité, qui sont des concepts proprement biologiques. Malheureusement, je vais conclure avec ça, ce tournant linguistique qui a durement frappé les fondements des mathématiques, j'espère qu'on petit à petit on s'en sort, mais ce n'est pas évident, n'a pas trop touché la physique, je crois. Les physiciens s'en foutent, même s'il y a des gens comme Wolfram qui écrivent des livres avec un succès en nous disant que les lois de la physique sont des algorithmes. Donc, quand corps tombe, puisqu'il est programmé pour tomber, je rigole pas, le problème peut tomber. Wolfram, c'est, non, mais c'est sérieux, et les problèmes peuvent tomber. Et vous comprenez, hein, grâce à l'activité, on dit qu'un corps tombe pour être son symétrie, hein, puisque l'inertie est comme la gravitation, l'inertie c'est une propriété de conservation, donc c'est des symétries dans les équations. Heureusement, les physiciens qui ont derrière eux cette théorie formidable s'en foutent que des gens disent qu'un corps tombe puisqu'il est programmé pour tomber. Malheureusement, dans la vie de la théorie des organismes, depuis les années 50, on nous raconte que l'embryogenèse a lieu puisqu'elle est programmée. Hein, on nous raconte ça, mais les gens qui le boivent, c'est tout à fait pareil. C'est même le tournant. Ceci dans un cadre de tournant linguistique. François Jacob, 1974, les modèles linguistiques en biologie. Un article remarquable, vraiment, qui est sur la piste de Frege et Hilbert. C'est une écriture, et comme il dit à l'élection inaugurale au Collège de France en 1965, la surprise est que la spécificité biologique soit écrite dans un alphabet comme le français et pas un idiogramme comme le chinois. J'ai raconté cette blague en Chine, mais puisqu'ils sont un peu nationalistes, on s'en est sorti avec un compromis. Leur ADN est écrit en idiogramme. Non, mais ça a profondément affecté, hein, c'est-à-dire cette écriture complète, encore une fois, une hypothèse de complétude, hein, l'écriture complète des axiomes qui permet de déduire tous les énoncés de l'arithmétique, de la géométrie. Bon, ça ne marche pas, on le sait, 1931. L'écriture complète de l'ontogenèse dans l'ADN, encore une fois, la même chose, tournant linguistique, explicité par les grands bonhommes qui ont découvert des mécanismes extraordinaires, comme l'allostérie, l'opéron lactose, ce sont des choses remarquables, prix Nobel bien mérité, mais immergées dans un cadre conceptuel qui est la parodie de ce tournant linguistique qui nous a déjà si gravement touché, malheureusement avec des conséquences graves, gravissimes. C'est la distorsion par des conséquences théoriques de ce cadre qui sont la stéréospécificité exacte des molécules, des macromolécules, des récepteurs cellulaires en particulier, qui ne nous a pas fait voir les perturbateurs endocriniens. Nous avons produit 82 000 molécules artificielles au XXe siècle, avec la négligence propre à ce qu'ils disaient, ce sont des petites molécules, elles ne vont pas interférer, elles ne sont pas stéréospécifiques, elles n'obéissent pas aux règles de la grammaire et du programme génétique. Et nous avons aujourd'hui des conséquences très graves de ce phénomène. Et le dogme central, qui est parodie de la proposition hilbertienne, hein, le tout phénotype en antécédent dans l'axiomatique, dans l'ADN, comme causal, antécédent causal dans l'ADN. Or, justement, en mettant ensemble ces choses, en plus l'usage des mathématiques en finance, le 28, c'est-à-dire lundi prochain, on va faire une deuxième fois un colloque Cardano, cette petite association que j'ai mise en place avec Alessandro Sarti, mathématicien de la morphogenèse, et Nicolas Boulot, qui est un probabiliste, sur une analyse critique de l'usage et des abus de certains outils mathématiques en dehors de cette rapport si fort, si heureux, si riche qui a eu lieu entre mathématiques et physique. Et malheureusement, dans le cas de la finance, avec des conséquences aussi très graves, et je crois que c'est un enjeu aussi très important. Sur la biologie, Weil ne dit pas beaucoup dans philosophie mathématique et science, un peu de choses que je trouve sympathiques, pertinentes, il n'y a pas de percée, mais... Il a une belle attitude. Tout d'abord, quand il dit qu'il ne faut pas s'adresser à une autre discipline comme la philosophie, il parlera de la biologie, d'un mathématicien qui demande tout le temps des définitions, des déductions, et ça ne serait pas plus sagacieux, hein, ça ne serait pas plus astucieux d'un géologiste qui rejette les nombres sur la base qu'ils ne sont pas du vivant. Donc, il a tout de suite la bonne attitude. Hein, il y a une spécificité disciplinaire avec laquelle il faut interagir de façon inventive. Et puis, il dit rapidement, comme son regard mérite, le regard sur la biologie mérite l'invention mathématique, il y a des lois propres qui doivent modifier notre façon de penser le vivant. Et il fait référence au petit bouquin de Schrödinger, de 44, mais à la deuxième partie, qui personne ne cite, tout le monde parle de la tentative qu'il fait Schrödinger de dire qu'il y a un codage, un code script. Il fait une tentative, sachant ce qu'il dit, puisque Schrödinger dit tout de suite, si j'ai raison, si c'est un code script, une fois qu'on l'aura décodé, on sera dans la position du démon de Laplace. Il sait que c'est une hypothèse laplacienne. Hein. Et donc, il comprend l'enjeu de l'incomplétude possible de la description. Et puis, la deuxième partie, il fait une analyse très belle de l'entropie négative en tant que Gibbs, énergie libre des Gibbs, donc très différente de toute question informationnelle. Et c'est là que Hermann Weyl dit qu'effectivement, comme chez Schrödinger, il y a de l'ordre qui est dérivé du désordre, et en particulier dans un cadre où aussi la physique quantique peut avoir une importance, car il y a, au niveau des mutations, des éléments non causaux qui peuvent entrer dans la formation des phénotypes. Hypothèse audacieuse, puisque on peut la faire, c'est raisonnable de la faire, et tout à fait raisonnable de la faire, mais c'est vrai. C'est-à-dire, j'ai écrit un petit article avec un généticien des plantes, il y a sur un survol, une réflexion sur l'évidence massive des phénomènes quantiques au niveau cellulaire avec des conséquences phénotypiques. Sur cela, j'ai conclu en disant cette vision problématique du temps qui a Hermann Weyl est d'une grande actualité. Je pense justement qu'il faut une théorie du temps adaptée au biologique, certainement comme dit Hermann Weyl, Bergson a ouvert la voie. Et il y a un problème d'une irréversibilité propre des processus biologiques qui n'est pas seulement thermodynamique, évidemment thermodynamique, il y a énormément de transformation d'énergie, donc de production d'entropie dans un organisme, mais il y a une irréversibilité propre à la mise en place de l'organisation, hein, c'est-à-dire l'embryogenèse en tant que telle, ou toute la vie, le vieillissement en tant que telle, sont irréversibles pour un temps auquel il faut donner un autre nom. C'est un temps propre du biologique où la mise en place de l'organisation se fait toujours avec un petit désordre. Le premier principe de Darwin, reproduction with variation, le premier principe, chaque fois qu'il y a reproduction, même d'une cellule, disons nous, pas lui, mais chaque fois qu'il y a reproduction, dit Darwin, il y a changement, il y a variation. C'est-à-dire, chaque fois qu'une cellule se reproduit, et les deux cellules sont légèrement différentes, simplement les protéines qui changent, l'ADN qui n'est pas copié exactement, et ces petits désordres qui sont introduits à chaque reproduction est un ultérieur élément d'irréversibilité qui s'ajoute à l'irréversibilité thermodynamique, qui est propre à la mise en place même de l'organisation. C'est-à-dire, penser par exemple l'embryogenèse qui aille à marche arrière réversible, est absolument inconcevable, non seulement pour des problèmes thermodynamiques, mais pour le fait même de mettre en place une organisation. Donc, je trouve là quelques pistes, même chez Hermann Weyl, quoiqu'il était évidemment très éloigné de ses réflexions, mais sous une ouverture ancrée sur l'expérience richissime qu'il a du rapport entre mathématiques et physique, et la façon par laquelle il veut ancrer les mathématiques sur ce parcours vivant, sous généalogie de concepts, de structures, qui sont au cœur de l'analyse fonctionnelle, qui a été écartée pendant un siècle, avec, comme je vous disais, des conséquences graves, heureusement pas trop en physique, mais très graves en biologie. Ok, je m'arrête ici.
Merci Giuseppe pour cette merveilleuse apologie de la philosophie du langage et des positions analytiques, y compris en biologie. Y a-t-il des questions?
C'est pas exactement une question, mais c'est pour moi aussi, j'ai des programmes pour tomber. C'est en quelque sorte le retour de la tubomotive, n'est-ce pas? Il est programmé pour tomber, contre tomber au sujet. C'est en quelque sorte le retour de la notion de la tubomotive.
Ah oui, absolument, en vertu de... Oui, je l'appelle comme ça. Et ce qui est le comble, que, spatialement, c'est dans plusieurs livres à grand succès de Wolfram, mais même dans un livre en honneur de Turing, qui dit exactement le contraire. Et Wolfram lui explique, mais Turing n'a pas compris que l'univers lui-même est une grande machine de Turing, hein, que les lois sont... Puisque Turing dit exactement le contraire, et il fait une analyse très fine de ce qui est la sensibilité aux conditions initiales, le fait en 50, encore mieux dans l'article sur la morphogenèse en 52, il dit « Le cerveau n'est absolument pas une machine à état discret, on peut essayer d'imiter le cerveau d'une femme en plus, hein. Et pas d'un homme, mais d'une femme. » Et puis, il insiste, l'univers a des propriétés, les phénomènes physiques, qui ne sont pas des machines à état discret, qui est laplacienne. Il est dit, laplacienne, c'est-à-dire la détermination d'une machine à état discret implique la prédictibilité. Il est dit à plusieurs reprises. Et Wolfram dit, ah non, Turing n'a rien compris. J'ai cité cet article qui est dans un gros volume en honneur de Turing pour les centenaires de sa naissance. Et c'est époustouflant. Mais heureusement, les physiciens s'en foutent. C'est pas grave. Mais en biologie, non. Encore une fois, l'embryogenèse comme programme, c'est encore à la mode. Et ça dicte l'agenda de la recherche sur les cancers. Il faut chercher l'oncogène. S'il n'y a pas l'oncogène, c'est les proto-oncogènes. Et si on ne trouve pas, c'est les oncosuppressor genes. Hein, c'est-à-dire tout phénotype, le phénotype cancer, doit avoir un antécédent dans l'axiomatique, écriture symbolique, linguistique de l'ADN. C'est encore ça. Les OGM, comme je vous disais, sont les enfants directs de l'idée qu'avec l'ADN, le programme, je pilote exactement la plante dans l'écosystème. Et la situation est gravissime. Je peux vous donner toutes les références. C'est-à-dire, il y a le phénomène le plus grave, c'est le fait que l'humus est réduit en poussière. C'est-à-dire, il y a des effets dramatiques sur le microbiome des racines, qui est très important pour l'humus, l'écosystème. Mais il y a une solution. Il suffit d'acheter des fertilisants produits par Bayer. On peut compenser ça. Et Monsanto et Bayer viennent de faire le plus gros conglomérat qui existe au monde. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. OK.
Dominique Pradel.
Merci, Joseph, pour toutes ces remarques stimulantes. Alors, il y a quelque chose qui traversait ton exposé, c'était l'idée d'incomplétude. Et d'abord l'incomplétude du bouquin de Van Eijenhout. Et j'avais jamais pensé qu'effectivement l'idée est qu'un livre, c'est pas seulement ce qui est dit dedans, mais ce qui n'est pas dit. Et c'est important, c'est qu'effectivement on peut lire ce bouquin comme une exclusion de large. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a intéressé, et là, parce que je ne suis pas tout à fait compétent, c'est sur la réception du théorème d'incomplétude de Gödel. Parce que la réception immédiate, et notamment par Herbrand, c'était de dire, oui, bon, il doit y avoir des énoncés arithmétiques formulables dans le cadre de l'arithmétique, mais non démontrables au sein de l'arithmétique. Il doit y en avoir, mais c'est sûrement pas intéressant. Et ce que tu disais, c'est que non, il y a des énoncés arithmétiques très intéressants qui ne sont pas démontrables au sein de l'arithmétique.
Mais c'est ça, c'est-à-dire... Le théorème de Gödel est formidable, absolument formidable. Mais tout d'abord, on comprend le théorème, le premier, seulement si on comprend le deuxième, ils sont corrélés. Et c'est une astuce incroyable de la part de Gödel qui lui permet de casser de l'intérieur les systèmes, le formalisme de façon purement formelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il encode la métathéorie dans la théorie. Et de là, il construit un énoncé diagonal, purement formel, sans aucun sens, qui est indémontrable et surtout... qui est impliqué par la cohérence, une fois formalisée la cohérence dans l'arithmétique. C'est un chef-d'œuvre, mais ne veut rien dire, puisque l'énoncé indépendant est un énoncé sans intérêt. Il dit, je ne suis pas un théorème. Donc, comme il l'explique dans l'introduction, c'est une réterminologie et formelle du paradoxe du menteur. Mais le deuxième est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il est très simple. C'est un jeu formel de quelques lignes tout à fait incompréhensible, dans lequel il montre que l'énoncé de la cohérence implique son énoncé indépendant, et vice-versa, mais c'est moins intéressant, ce qui implique que la cohérence aussi formalisée dans l'arithmétique n'est pas démontrable. C'est-à-dire, il démontre que la théorie est plus forte que la métathéorie. C'est ça, la puissance. Mais du point de vue mathématique, les mathématiciens disent, bon, d'accord. Mais depuis le théorème de Paris-Sarit en 78, on a un premier énoncé qui est arithmétique, mais un peu tiré par les cheveux. Moi, c'était 78, moi j'étais en 80 à Berkeley, travaillant sous Harrington, j'ai donné une preuve sémantique de cet énoncé, qui est une variante du théorème de Ramsey, très compliqué, moi j'ai donné une preuve sémantique, et qui est moyennement intéressant. La percée tout de suite après, c'est Friedman, qui a pris un théorème de combinatoire infini de Kruskal, très intéressant, avec plein d'applications sur les arbres, un théorème sur les arbres, plein d'applications, drôle de choses, en informatique en particulier, et une version finie de ce théorème qui garde toutes les applications, qui permet de toutes les applications connues. Lui est indémontrable. Et c'est très intéressant comme énoncé. Et sur ça, j'ai écrit, c'est mon article Reflections on Concrete Incompleteness. Et quand on regarde la preuve, on comprend. On met, c'était mon travail. On met le doigt sous les lignes où on fait un passage de type géométrique. On ne peut pas s'en passer. C'est un énoncé de l'arithmétique, mais c'est un énoncé intéressant. Donc, et quand on en a un, après, évidemment, il y en a eu des dizaines. Hein, vous savez, quand c'est comme ça en mathématiques. Plus ou moins intéressant, à des variantes, etc. C'est-à-dire, il y a tout un univers. Et ce qui est incroyable, que c'est sur cet univers qui met les doigts à Hermann Weyl, puisque dans cette citation de Das Continuum, il décrit quelque chose que je pourrais maintenant réécrire dans les termes de Friedmann-Kruskal, à cause de cette forte croissance de la fonction définissable, calculable, mais qui n'est pas démontrablement totale en arithmétique, puisque sa croissance est trop forte. La convergence des deux réels proches est justement un cas de cette croissance trop forte pour que la fonction soit démontrablement totale en arithmétique. Donc, Herbrand a tort. Comme beaucoup de mathématiciens, ils ont compris très bien l'énoncé de Gödel. Ils ont dit, bon, d'accord, c'est rigolo, c'est sympa. Mais après, il y a eu ces énoncés concrets qui changent totalement la donne. Et ce qui est intéressant, ce sont des énoncés qui ont à voir avec des très grands nombres. Ce sont des fonctions très fortement croissantes. Mais encore une fois, les très grands nombres ne le sont pas au point de ne pas être atteignables aujourd'hui. Comme je vous disais, la petite application de Deluge's Spurious Correlations in Big Data que j'ai faite a été inspirée comme réponse à ces gens qui se font donner 100 millions de dollars pour faire le mapping des 10 millions de personnes de tous les omics. Donc en trouvant, puisqu'on est à l'intérieur de ces grands nombres, des corrélations qui n'auront aucune signification. Et avec 10 millions de dollars, ils vont nous donner cet immense ce nombre en disant « Maintenant, les machines vont trouver des régularités, avec ça, on va soigner les cancers. » Alors, avec Christian Calud, sollicité par mes collègues en biologie du cancer, et j'ai écrit ce petit article. En connaissant le théorème de Rams, c'est donc la théorie relative qui dit ces régularités. Il y a une drôle de connexion, c'est-à-dire les régularités apparaissent sur ces très grands nombres grâce à des résultats qui sont corrélés à l'incomplétude. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces nombres sont si grands que justement il y a un problème de croissance arithmétique. Mais il n'y a pas que ça, puisque les applications, les deux théorèmes que nous utilisons, Van der Weyden et Ramsey, sont dans des formes qui sont démontrables en arithmétique. Mais enfin, on est sur le seuil de ce qui est récursif total, mais pas toujours démontrable total en arithmétique. Encore une fois, le théorème de Gödel est derrière comme fantôme, comme immense résultat. Pourquoi est-il derrière? Puisque chaque fois, l'indémontrabilité est donnée en montrant qu'en arithmétique, ces énoncés impliquent la cohérence de l'arithmétique, ce qui est époustouflant. C'est-à-dire, on ne s'en sort pas. Il y a toujours le fantôme de Gödel immense derrière, mais les résultats n'ont rien à voir avec l'énoncé de Gödel. Et ça a à voir avec des très grands nombres. Et ça donne une réponse à ces folies de Big Data qui devraient remplacer la connaissance scientifique. Il y a ces gens qui disent.
Quand tu disais que le travail de Hilbert était incomplet parce qu'il laissait échapper l'invention des structures.
C'est ça.
Quel type d'invention de structure?
La ligne sans épaisseur, la toute première. Et toute l'histoire des mathématiques. Enfin, vraiment, je ne sais pas si tu as lu les commentaires du traducteur Hilbertien 905. De Euclide, une excellente traduction utilisée encore aujourd'hui, qui tout le temps compare à Hilbert et met beaucoup de commentaires. C'est comme s'il disait tout le temps, Euclide, comme Hilbertien, n'était pas très bon. Il y a cette lecture axiomatique, purement axiomatique de, de Euclide, qui est une folie. Enfin, la géométrie grecque est certainement le raisonnement à la dialectique, certainement la logique, cette puissance extraordinaire. Les symétries, il l'utilise dans des preuves. Il y a des preuves faites par symétrie. Hein. Mais il y a l'invention de la première fondamentale structure des mathématiques occidentales, et seulement la nôtre, qui est la raison de fond pour laquelle on a continué. Puisqu'après ça, il y a l'invention de la géométrie projective, les espaces infinis de Descartes, il y aura les calculs infinitésimales. C'est sur l'infini qui va s'enraciner le travail ultérieur en mathématiques. Il n'y a rien à faire.
Sur cette belle conclusion, puisque, comme disait Bayle, on s'attaque à l'infini avec des moyens finis, alors, je ne sais pas si notre dilemme a à voir avec ce que disait Pierre concernant les nombres très grands. Là, on a un dépassement qui est de plus en plus grand. Donc, si les contraintes resteront en fait, on va essayer de faire une pause très brève de 5 minutes pour ceux qui veulent se dire.